Donc, le 30 juillet 2024, à l'occasion du 25e anniversaire de son accession au pouvoir, le roi du Maroc, Mohamed VI, recevait en cadeau, de la part d'Emmanuel Macron, la reconnaissance officielle de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette ex-colonie espagnole est revendiquée à la fois par le Maroc et par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Ce cadeau d'Emmanuel Macron mettait un terme au froid qui s'était installé entre la France et le Maroc depuis le scandale qui avait révélé que le royaume avait mis sur écoute, grâce au logiciel espion israélien Pegasus, de nombreuses personnalités, dont le président de la République. Si cette annonce a réchauffé les relations avec le Maroc, elle a en contrepartie ouvert une crise diplomatique sans précédent entre la France et l'Algérie. Dans les trois pays, les tensions ont été utilisées pour faire diversion au mécontentement social et renforcer le sentiment national. Accusations d'espionnage, emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal, affaire des influenceurs, meurtre de Mulhouse, expulsion d'Algériens sous OQTF, menace de dénoncer les accords de 1968, kidnapping de l'influenceur Amir Dezed, renvoi des agents consulaires. Tous ces épisodes, dignes de la série Le Bureau des légendes, ont donné lieu à des polémiques instrumentalisées pour des enjeux de politique intérieure française. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en campagne pour prendre la tête de LR et aux ambitions présidentielles affichées, a soufflé sur les braises afin de s'imposer au sein de son propre parti et face à ses rivaux d'extrême droite. Il s'est d'ailleurs vanté que chaque polémique l'avait servi et rendu populaire. Marine Le Pen, soucieuse de ne pas se faire doubler sur sa droite, a exigé le gel des visas et des transferts de fonds privés et a promis, si elle arrivait au pouvoir, de traiter l'Algérie comme Trump l'a fait avec la Colombie. Début avril, alors que Jean-Louis Barrot était envoyé en Algérie pour apaiser la crise, il était sous le feu des critiques de l'extrême droite, accusé de se coucher devant la dictature algérienne. Cette surenchère écœurante s'inscrit dans la campagne anti-immigrés menée par ce gouvernement comme par ses prédécesseurs. Tant pis si ces calculs politiciens s'opposent aux intérêts des patrons français implantés en Algérie et qui sont sidérés de cette campagne hystérique. Tant pis pour tous les travailleurs algériens ou d'origine algérienne pris en tenaille entre les deux pouvoirs et qui en ont assez d'être stigmatisés, présentés comme des privilégiés et des délinquants. Cette brouille diplomatique sert à faire diversion au mécontentement social et n'est celle d'aucun travailleur, que ce soit en France ou en Algérie. Les travailleurs conscients doivent s'opposer à cette campagne haineuse. Travailleurs de toutes origines, même patron, même combat. Cette crise révèle à quel point le passé colonial continue de peser. Bien que les peuples du Maghreb aient accédé à l'indépendance depuis plus de 6 décennies, la mainmise de l'impérialisme, et en premier lieu l'impérialisme français sur cette région, n'a jamais cessé. Les peuples, qui étaient fiers d'avoir mis bas à l'oppression coloniale, ont rapidement déchanté. Alors qu'ils espéraient une vie libre et digne, ils ont vu se dresser devant eux leurs propres dirigeants, leurs nouveaux oppresseurs. Si les trois nouveaux États indépendants, Maroc et Tunisie en 1956, Algérie en 1962, présentaient des visages différents. Chacun de ces régimes, issus des indépendances, a utilisé les mêmes méthodes pour écraser les contestations qui n'ont pas manqué de s'exprimer. En définitive, chacun de ces nouveaux États était à sa manière le défenseur de l'ordre bourgeois et le garant de l'ordre impérialiste. Et c'est donc sur ce sujet que je passe la parole à notre camarade.
Alors le Maghreb comprend officiellement 5 États, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, auxquels il faut ajouter le Sahara occidental, colonisé par l'Espagne et qui en fait n'a jamais été décolonisé. 110 millions d'habitants vivent dans cet espace situé au carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, bordée par la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et l'immense désert du Sahara. Nous évoquerons principalement les trois pays du Maghreb central, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ainsi que le Sahara occidental, dont le sort est lié au précédent, et dont les peuples partagent une longue histoire commune. Ils ont été colonisés par la France et l'Espagne et ont mené de durs combats pour accéder à l'indépendance. Des combats qui se sont toujours interinfluencés. L'arabe officiel est une langue commune et ils partagent la même langue de communication, l'arabe populaire maghrébin, ainsi que la langue berbère, déclinée en de nombreux dialectes. Ils partagent la même culture, les mêmes aspirations. Ils auraient dû avoir un destin commun, mais ce ne fut pas le cas. En effet, depuis l'indépendance, les peuples marocains et algériens subissent les rivalités qui opposent leurs dirigeants. Ces rivalités étaient inscrites avant même les indépendances, dans le projet des dirigeants nationalistes qui visaient à la construction de leurs propres États. Ces tensions quasi permanentes entre les deux plus grands États du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, ont été attisées par l'impérialisme français qui n'avait pas intérêt à avoir en face de lui un vaste ensemble uni. Autant dire que la lutte des peuples du Maghreb contre l'oppression, c'est notre histoire, à nous, travailleurs de part et d'autre de la Méditerranée. D'abord parce que la colonisation française y a laissé une empreinte durable. Ensuite, parce que la France a joué un rôle essentiel dans la mise en place de ces États indépendants. Et enfin, parce que depuis plusieurs générations, une fraction importante de la classe ouvrière française, quelque 10 millions de personnes, en comptant les descendants des immigrés, est originaire du Maghreb. Ces derniers mois, la colonisation de l'Algérie a été au cœur de nombreuses polémiques. Ainsi, pour avoir affirmé, je le cite, que la France avait fait des centaines d'oradours sur glane en Algérie, le journaliste Jean-Michel Apathy, pourtant non connu pour des positions radicales, a été suspendu de RTL, mis au pilori et sommé de présenter des excuses. Ses propos ont été qualifiés par Jordan Bardella d'odieuse falsification de l'histoire. Venant de l'extrême droite, cela ne nous étonne guère. Car elle a toujours compté dans ses rangs les héritiers de l'Algérie française qui n'ont jamais digéré l'indépendance de ce pays. Cette haine, la génération disparue des Jean-Marie Le Pen, l'a transmise à ses descendants. Et aujourd'hui, ces nostalgiques réactionnaires sont renforcés par le ralliement de la droite issue du gaullisme qui, sur cette question, s'était opposée avec les gaullistes. Les voilà réunis, réhabilitant le mythe des bienfaits de l'Algérie française, attisant la haine à l'égard de ce pays, devenu un bouc émissaire. Alors Sarkozy avait ouvert la voie avec sa loi de 2005. Il avait tenté d'imposer l'enseignement du rôle positif de la colonisation. Sa loi n'est pas passée, mais le mythe de la prétendue repentance qui serait exigée par l'Algérie, lui, s'est répandu. Sans compter le nombre de fois où il a asséné, nous n'avons pas à rougir de l'histoire de France. Il a ouvert la voie aux Retailleau, Darmanin et Ciotti, l'ex-président des LR, rallié à Le Pen, qui a osé qualifier d'insulte à la France et d'infamie les propos d'Apathy. Mais la seule et vraie infamie, c'est l'exécution en 1830 de 800 habitants de Blida et le massacre 20 ans plus tard des villageois de Zaatcha dont les crânes étaient exposés au Musée de l'Homme à Paris. L'infamie, c'est l'enlurement jusqu'à ce que mort s'en suive de 500 membres de la tribu des Bani Sébir dans une vaste caverne à Ain Meran. L'infamie, ce sont les enfumades, comme celles qui, en 1945, conduisit à l'asphyxie des 1000 membres d'une tribu réfugiés dans les grottes du massif de Dahra. Voilà comment la France a ouvert le bal tragique de la conquête coloniale au Maghreb. N'en déplaise à Sarkozy, Retailleau et leurs compères, la France qu'ils incarnent a bien 1000 raisons de rougir de honte. « les liens que la France entretient depuis 60 ans avec ses ex-colonies du Maghreb reflètent la manière dont elle les a conquises, colonisées, administrées et décolonisées. Dès 1830, l'Algérie vit débarquer des troupes françaises, des financiers et les colons venus faire fortune et piller les richesses du pays. Il fallut 40 ans à l'armée française pour venir à bout de la résistance acharnée de la population. Le nord de l'Algérie, où les élites locales avaient été massacrées, fut annexé dès 1848, divisé en 3 départements et transformé en colonie de peuplement. En 1881, la France s'emparait de la Tunisie, puis, en 1912, d'une partie du Maroc, le reste étant occupé par l'Espagne. Si le nœud coulant de l'endettement fut utilisé par la France pour prendre le contrôle de l'économie de ces pays, elle eut aussi recours à la force des armes. Elle mit en œuvre tout le savoir-faire acquis en Algérie en matière de répression coloniale. Ainsi, en 1910, au Maroc, un soulèvement populaire fut atrocement réprimé par des troupes françaises. Après des conquêtes courtes, mais qui n'en furent pas moins violentes, la France fit de la Tunisie et du Maroc des protectorats, affirmant que ces pays n'étaient pas aptes à se diriger eux-mêmes sans être aidés. Elle fit le choix de les administrer en s'appuyant sur des pouvoirs locaux, le bey de Tunis et le sultan à Rabat. À la veille des indépendances, la perpétuation de la domination coloniale française était présentée à la population, ici en France, comme essentielle à la grandeur du pays et comme une évidence. Pour le million d'Européens qui vivaient en Algérie depuis plusieurs générations, l'Algérie, c'était la France et cela paraissait irréversible. Certes, dans les années 20 et dans les années 30, 1930, la France avait été confrontée au Maghreb à des révoltes qui avaient fait trembler l'Empire colonial, mais à chaque fois, elle avait réussi à rétablir l'ordre. Ainsi, en 1925, dans les montagnes du Rif, au nord du Maroc, la France mit toute sa puissance de son appareil militaire pour écraser le soulèvement populaire dirigé par Abdelkrim el-Khattabi, qui avait non seulement infligé une lourde défaite aux armées espagnoles, mais aussi réussi à créer une république du Rif de 3 millions d'habitants qui menaçait de s'étendre à l'ensemble du Maghreb. Dans le même temps, les autorités françaises surveillaient de près le jeune parti communiste français que la révolution russe avait fait naître. Celui-ci portait alors haut et fort le drapeau de l'internationalisme, en appelant les soldats français à fraterniser avec les soldats rifains. En 1925, 900 000 ouvriers français avaient répondu à son appel à la grève contre cette sale guerre coloniale menée par Pétain. Partout, la répression et le mépris des colons renforçaient le sentiment d'oppression nationale. De Rabat à Tunis, de nouvelles générations militantes se levaient et s'organisaient. En 1924, à Paris, l'Union intercoloniale, créée par le Parti communiste, cherchait alors à s'adresser à l'ensemble des opprimés coloniaux, sans les séparer selon leur nationalité. Des travailleurs algériens se regroupèrent au sein de l'Étoile nord-africaine, pour réclamer l'indépendance et, il faut le souligner, l'unité des 3 pays du Maghreb. La police eut beau arrêter à maintes reprises son leader, Messali Hadj, l'étoile nord-africaine gagna en influence en France et en Algérie. Au début des années 1930, au Maroc, ce furent les jeunes Marocains issus des classes aisées traditionnelles qui furent à l'initiative, tandis qu'en Tunisie, un jeune avocat nommé Bourguiba fondait le parti Néo-Destour. Mais dans ces années 30, alors que le monde était ébranlé par une crise sans précédent, c'est de la classe ouvrière que vint la contestation la plus déterminée qui culmina avec la grève générale de mai et juin 1936. Partie de France, elle déferla dans tout le Maghreb. Avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Front Populaire en 1936, l'indépendance semblait possible. En Tunisie, la détermination et l'unité des travailleurs français et tunisiens imposèrent que les accords Matignon soient applicables aux travailleurs tunisiens aussi. Cette union confirmait qu'en dépassant les clivages créés par l'État colonial, la classe ouvrière pouvait être une force capable de diriger elle-même la révolte de l'ensemble des opprimés. D'autant qu'au Maroc et en Algérie, la seule réponse de la gauche au pouvoir fut la répression. La déception et la colère furent grandes parmi les travailleurs qui se tournèrent alors du côté des organisations nationalistes. Comme un symbole, Messali Hadj avait abandonné le drapeau rouge pour créer un drapeau algérien. Pour sauver l'ordre social et colonial, la bourgeoisie française avait pu compter sur Léon Blum, le socialiste Léon Blum, mais aussi sur le Parti communiste, qui avait définitivement tourné le dos à sa politique internationaliste de ses débuts. L'ordre colonial avait été sauvé, mais son temps était compté. La Deuxième Guerre mondiale allait définitivement saper les bases de l'Empire colonial. La France, dirigée par le général de Gaulle, à la fin de la guerre, s'y accrochait d'autant plus qu'elle sortait affaiblie de ce conflit mondial, dont l'URSS et les États-Unis étaient les grands vainqueurs. De Gaulle ne put éviter la révolte qui grondait, nourrie par une misère effroyable et la montée des revendications nationalistes. Le débarquement allié en novembre 1942 et la rencontre entre le président américain Roosevelt et le sultan du Maroc à Casablanca était un encouragement pour les militants marocains d'un nouveau parti, l'Istiklal, qui signifie « indépendance ». Le premier signal de la révolte fut donné en Algérie dans le Constantinois le 8 mai 1945, il y a tout juste 80 ans. Dans les défilés organisés pour marquer la libération, les militants algériens crièrent « à bas la colonisation ». Et la police attaqua les manifestants qui brandissaient le tout nouveau drapeau algérien. À Sétif, le défilé vira à un affrontement qui s'étendit les jours suivants, provoquant en retour une répression féroce qui fit, selon les estimations, entre 10 000 et 40 000 morts. Cette saignée, faite avec la complicité des ministres communistes, offrait un répit aux partisans de l'Algérie française. Ces années d'après-guerre, qui s'ajoutaient à celles de la guerre, furent des années terribles. Toutes les ressources des colonies étaient orientées en priorité vers la France, comme le blé et l'orge, laissant la population dans une situation de famine. Au Maroc et en Tunisie, dans les années d'après-guerre, on assista à une montée des grèves ouvrières, malgré l'opposition du Parti communiste français, qui menait en France la bataille de la production avec la peau des travailleurs. Au Maroc, les travailleurs combatifs affluèrent vers l'Istiklal, le nouveau parti indépendantiste, dirigé alors par Alaa El Fassi, qui créa des syndicats clandestins combatifs. Les grèves victorieuses de l'année 1951 le renforcèrent davantage. Le sultan voulut récupérer ce succès en 1952 en exigeant, devant une immense foule populaire, je le cite, l'émancipation politique totale du Maroc. En Tunisie, le leader syndical Ferhat Ached avait déjà quitté la CGT de Tunisie pour fonder en 1946 l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie. En effet, à l'unisson de la CGT de France, alignée sur le gouvernement français, la CGT de Tunisie présentait la grève comme l'arme des trusts et exhortait les travailleurs tunisiens à reconstruire coûte que coûte le pays qui les opprimait. L'UGTT de Ferhat Ached connut un essor foudroyant. 2 ans après sa fondation, elle regroupait 100 000 adhérents. Si Ferhat Ached avait rejeté la CGT de Frachon, qui mettait la force des travailleurs au service de la bourgeoisie française, l'UGTT, justement, donc lui-même, en soutenant le néo-destour de Bourguiba, un parti nationaliste, l'UGTT mettait la force des travailleurs au service de la bourgeoisie tunisienne. Bourguiba espérait obtenir l'autonomie de la Tunisie par un compromis avec les autorités françaises, qui lui opposèrent une fin de non-recevoir. La répression s'accrut. Bourguiba fut arrêté et déporté, et Ferhat Ached, laissé en liberté, devint la cible de l'extrême droite française, qu'il assassina en 1952. Dans les jours qui suivirent, des manifestations s'étendirent. L'armée française les mata avec la plus grande brutalité. L'assassinat du leader syndical tunisien déclencha au Maroc des manifestations et des grèves qui prirent un caractère explosif. Donc c'était en 1953, quand les autorités françaises destituèrent le sultan et l'exilèrent à Madagascar. En Algérie, un nouveau statut adopté en 1947 était censé accorder le suffrage universel aux Algériens. Mais il n'avait d'universel que le nom. Non seulement les femmes en étaient écartées, mais il établissait deux collèges qui aboutissaient à ce que la voix d'un Français valait celle de 9 Algériens. Ce nouveau camouflet, suivi de peu par la défaite de l'armée française en Indochine, encouragea une nouvelle génération de militants à engager la lutte armée. Le 1er novembre 1954, le FLN, le Front de Libération Nationale, vit le jour. Issu des rangs du parti de Messali Hadj, mais en rupture avec le vieux dirigeant, ces dirigeants donnèrent le signal de l'insurrection par une série d'attentats à travers l'Algérie. Les dirigeants français craignaient cette jonction des luttes des peuples des trois pays du Maghreb. Ils craignaient également que les révoltes en Tunisie et au Maroc se radicalisent et échappent au contrôle des forces nationalistes les plus modérées. Des signes confirmaient cette crainte. En effet, une lutte armée voyait le jour au Maroc et en Tunisie. Le gouvernement français se savait incapable de faire face à une explosion qui aurait gagné tout le Maghreb. Aussi s'empressa-t-il de rechercher une solution pour éteindre l'incendie. Bourguiba en Tunisie et le sultan au Maroc étaient des interlocuteurs responsables avec lesquels ils pouvaient négocier. On les sortit de leur exil et à leur retour au pays, ils furent l'un et l'autre accueillis par une foule en liesse. Au Maroc, le 2 mars 1956, le sultan fut remis sur le trône, troqua son titre de sultan pour celui de roi du Maroc sous le nom de Mohamed V. Quelques jours après, le 20 mars 1956, Habib Bourguiba, le chef du néo-destour, prit la tête d'un gouvernement de transition en Tunisie. La Tunisie et le Maroc indépendants, l'armée française avait désormais les mains libres pour tenter de rétablir l'ordre colonial en Algérie. Ces exactions renforcèrent les rangs du FLN, qui s'imposa comme direction de la lutte à sa propre population, mais aussi face aux organisations rivales, sommées de se rallier sous peine d'être combattues et leurs partisans exécutés. L'état-major français, qui voulait se venger de la défaite de Dien Bien Phu en Indochine, eut beau mobiliser son armée, sa puissance de feu et plus de 2 millions de jeunes appelés, le 5 juillet 1962, après 8 ans d'une guerre terrible, le peuple algérien arrachait son indépendance. Chasser la puissance coloniale avait coûté très cher au peuple algérien. 500 000 morts. 2 millions de déplacés dans des camps. Ces sacrifices inouïs consentis par le peuple algérien avaient été d'autant plus importants qu'il s'était retrouvé isolé dans la lutte. Cet isolement n'était pas une fatalité. Il était le fruit de la politique des dirigeants nationalistes et de la honteuse trahison des organisations ouvrières en France qui se sont montrées complices du massacre des Algériens. En premier lieu, le Parti socialiste, qui a été à la tête de gouvernements qui ont mené cette sale guerre. Le Parti communiste, lui, se démarqua à peine du PS et il vota les pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie qui permirent l'envoi du contingent. Tout en prônant la paix en Algérie, le PCF abandonna à leur sort les jeunes appelés qui, en 1956, refusaient de monter dans les trains qui les emmenaient faire la guerre. Cette politique acheva de discréditer le Parti communiste algérien qui lui était lié et renforça les nationalistes du FLN. En France, Le PCF ne protesta pas non plus quand un couvre-feu fut imposé aux dizaines de milliers d'Algériens de la métropole. Pourtant, la très grande majorité des Algériens vivant en France étaient des travailleurs exploités, aux côtés de travailleurs français, dans les mêmes usines, les mêmes mines, sur les mêmes chantiers ou exploitations agricoles. Ni le FLN, ni le PCF, ni aucun grand parti n'eut de politique pour que ces deux fractions de la même classe ouvrière se battent ensemble pour des objectifs communs, que ce soit en France ou de l'autre côté de la Méditerranée. Cet alignement de chaque côté, chacun derrière sa bourgeoisie, n'a pas fini d'avoir des conséquences. On les paye encore 60 ans plus tard. L'isolement du peuple algérien a résulté aussi du choix étroit des dirigeants nationalistes des trois pays du Maghreb de bâtir chacun leur propre État. Ce choix, ils l'ont imposé à leur propre peuple, qui avait subi la même oppression coloniale, les mêmes privations et qui partageait les mêmes aspirations à une vie digne et libre. Dans un même élan, les classes opprimées du Maghreb avaient relevé la tête, conscientes d'appartenir à un même ensemble. Le sentiment de solidarité et les nombreux liens qui les unissaient ouvraient des possibilités révolutionnaires considérables. Les dirigeants nationalistes n'ont jamais cherché à s'appuyer sur ces sentiments, alors qu'en s'unissant, les classes populaires des trois pays auraient pu accéder à l'indépendance dans des conditions bien plus favorables. C'était pourtant l'idée défendue en son temps par Abdelkrim, le héros de la révolte du Rif, quand il déclarait, je le cite, « S'il y avait eu en Algérie et en Tunisie, et en même temps qu'au Rif, une résistance équivalente, l'histoire se serait écrite autrement. » Des travailleurs des trois colonies étaient organisés au sein de l'étoile nord-africaine de Messaliadj, qui avait envisagé à ses débuts l'émancipation de l'ensemble des peuples du Maghreb comme un objectif commun. Et quand, en 1947, Abdelkrim, qui avait fui son exil et qui s'était réfugié au Caire, avait réussi à réunir les nationalistes algériens, marocains et tunisiens dans le premier congrès arabe, il défendait toujours l'idée d'un Maghreb uni et indépendant. Mais dans les années 1950, les dirigeants nationalistes des trois pays tournèrent le dos à cette perspective tracée par Abdelkrim. Alors oui, il n'y avait vraiment rien d'automatique à ce que le départ de la France se traduise par l'émergence de trois États opposés et concurrents. Pour autant, à l'heure des indépendances, ces nouveaux États incarnèrent aux yeux de leur peuple la fin du mépris, la dignité retrouvée. Les peuples pouvaient en effet se sentir heureux et fiers d'avoir mis fin à l'humiliation coloniale. Mais s'ils aspiraient de tout cœur à sortir leur pays du sous-développement, leur espoir céda vite la place au désenchantement. Ces régimes se référaient à des idéologies différentes. Cependant, ils prirent partout et très vite le même visage, celui de régimes autoritaires. Quant au discours des dirigeants nationalistes sur l'unité du Maghreb, les peuples n'allaient pas tarder à découvrir qu'ils n'étaient que pure démagogie. Ben Bella, le premier président de la République algérienne, avait bien déclaré, je le cite, « Le regroupement avec nos frères d'Afrique du Nord est bien plus que nécessaire, il est vital. » Mais en réalité, chacun voulait avoir son propre appareil d'État pour défendre les intérêts de sa propre bourgeoisie contre ses voisins et son propre peuple. Chacun voulait être maître de son propre territoire, derrière ses propres frontières, pour accéder à la meilleure part des miettes laissées par l'impérialisme. Alors même qu'une coopération économique ou même une unité étatique des trois pays leur aurait donné bien plus de moyens pour résister aux pressions impérialistes, en particulier celle de l'ex-puissance coloniale. Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, ces rivalités débouchèrent sur des conflits fratricides à propos du tracé des frontières. La monarchie marocaine revendiquait au nom d'un Maroc historique précolonial des territoires jusqu'à la frontière avec le Mali et le Sénégal, incluant le Sahara espagnol, la Mauritanie et une partie du Sahara algérien. Le FLN, au nom de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, rejetait les revendications marocaines. Il estimait que ces territoires, le peuple algérien les avait payés de son sang. À l'automne 1963, un an après l'indépendance de l'Algérie, les rêves d'une unité maghrébine s'évanouirent définitivement quand un violent accrochage opposa les armées marocaines et algériennes pour le contrôle de villes dans les confins du Sahara. Cette guerre des sables aurait fait plus de 1000 morts. 3 ans plus tard, le Tunisien Bourguiba revendiquait à son tour une zone frontalière nommée Borne 233, mais il renonça à l'escalade avec son voisin algérien. Ces conflits frontaliers dans des zones désertiques, possiblement riches en minerais et en hydrocarbures, traduisaient la nécessité impérieuse pour les nouvelles classes dirigeantes de ces États de s'approprier les ressources pouvant développer leur économie nationale naissante dans un monde dominé par l'impérialisme. L'économie de ces pays, essentiellement agricole, avait été déformée par la colonisation, avant tout en fonction des besoins de la France. Dans les 3 pays, les dirigeants affichèrent la volonté de développer leur pays. Pour nourrir une population en augmentation, les réformes agraires étaient présentées comme la solution, mais celles-ci ne remplirent pas leurs promesses. L'indépendance politique en soi ne pouvait pas permettre d'échapper aux griffes de l'impérialisme. L'exploitation des paysans et des ouvriers permit à une bourgeoisie et à une petite bourgeoisie nationale d'émerger et aux multinationales de prélever leurs dîmes. Les nouveaux dirigeants bâtirent des appareils de répression redoutables dont la première fonction était d'écraser les révoltes qui éclatèrent à maintes reprises. Excusez-moi, je vais voir. Alors, en Algérie, en prenant le titre de République démocratique et populaire, le régime algérien prétendait répondre aux exigences de la population. Ces exigences, un dirigeant de l'UGTA les avait formulées ainsi, je le cite. « Les travailleurs algériens ne luttent pas seulement pour avoir un drapeau et des ambassades. Ils luttent pour garantir aux paysans la terre, à l'ouvrier le travail et de meilleures conditions de vie. » Les dirigeants nationalistes du FLN portaient les espoirs de tout un peuple de pouvoir enfin sortir de la pauvreté. Mais dès l'indépendance, la population qui n'avait jamais eu son mot à dire assista à la lutte de pouvoir entre les chefs du FLN. Porté par l'armée, Ahmed Ben Bella instaura le régime du parti unique et élimina ses rivaux, avant d'être lui-même éjecté en 1965 par le coup d'État militaire de Boumédienne. La bourgeoisie algérienne était trop faible pour pouvoir diriger le pays autrement qu'avec l'appui de l'armée. Celle-ci devenait ainsi la colonne vertébrale du régime. La puissante sécurité militaire, bâtie au cours de la guerre d'indépendance, épurait tous les canaux par lesquels aurait pu s'exprimer la contestation, tels que l'Union générale des travailleurs algériens. Les accords d'Évian, signés entre la France et l'Algérie en 1962, sanctionnaient un rapport de force et codifiaient les relations entre les 2 pays. Ils avaient permis à la France de conserver des bases militaires, dont des bases d'essai nucléaires au Sahara. La bourgeoisie française avait réussi à imposer un contrôle aussi sur les hydrocarbures et les richesses minières. De 1966 à 1970, 75% de la production de la société pétrolière ELF provenait du Sahara. L'État algérien fut contraint d'engager un bras de fer dès le début pour s'assurer un minimum de contrôle sur sa propre économie. Entre 1963 et 1968, il nationalisa 1 million d'hectares de terre appartenant aux colons, des sociétés minières et 67 usines privées françaises. Le 20 juillet 1970, L'État algérien tenta d'imposer aux sociétés françaises une augmentation du prix du baril de pétrole de 2 à 2,80 dollars. La France refusa de relever les tarifs et de payer les 25 milliards de francs de taxes qu'elle devait au pouvoir algérien. Boumediene riposta en nationalisant le gaz et le pétrole, ainsi qu'en prenant le contrôle de 51% des actifs des compagnies pétrolières françaises. Il créa la Sonatrach, la société nationale chargée de l'exploitation du pétrole et du gaz, et lança un plan d'industrialisation du pays. L'État français répondit en procédant à l'embargo sur les exportations pétrolières. Malgré l'absence de liberté, toutes ces mesures étaient vécues par la population algérienne comme une revanche après les concessions imposées par l'impérialisme français lors des accords d'Évian. Ces mesures présentées comme socialistes n'avaient rien de socialiste. Elles étaient la réaction d'un État bourgeois, d'un pays pauvre, pour tenter de se protéger, dans une certaine mesure, de la pression impérialiste. Avec le choc pétrolier de 1973, les prix du pétrole et du gaz flambèrent, faisant rentrer des devises en Algérie. Cette manne améliora quelque peu le quotidien des classes populaires. Mais l'essentiel fut absorbé par la construction de complexes industriels, sidérurgiques, pétrochimiques. Ces projets étaient dits socialistes, mais en fait, ils aggravaient la dépendance économique du pays à l'égard de l'impérialisme. Pour industrialiser et faire tourner les usines existantes, pour importer des machines et des pièces détachées coûteuses, l'Algérie dut emprunter auprès des banques françaises. En outre, l'argent consacré à l'industrialisation manquait pour développer l'agriculture, poussant des paysans à l'exode. L'Algérie, qui en 1969 produisait 70% de ses besoins alimentaires, n'en produisait que 31% 10 ans plus tard. Elle dut s'endetter davantage pour importer des tonnes de céréales et de produits laitiers d'Europe. Quand le 27 décembre 1979, Boumediene mourut, une véritable marée humaine déferla sur Alger pour rendre hommage à celui qui avait incarné la fin de l'humiliation coloniale. Le colonel Boumediene avait dirigé le pays d'une main de fer, mais les progrès en matière de santé et d'éducation lui avaient donné une assise populaire. En offrant asile et assistance aux opposants du monde entier, des militants sud-africains de l'ANC aux Panthères Noires, en passant par les Palestiniens de l'OLP, Boumediene avait renforcé la position diplomatique de l'État algérien. Il avait cultivé l'image d'un régime révolutionnaire, mais dans les faits, il ne tolérait aucune opposition dans son propre pays. Et il avait aussi favorisé la pratique de la religion. L'islam était la religion d'État qui encadrait moralement la vie des Algériens. Renforcer son rôle fut une politique délibérée du régime. Et c'était d'ailleurs un point commun aux trois régimes. Pour Mohamed V, qui avait le statut de commandeur de croyants, c'est une évidence, mais Bourguiba fit de même. Au Maroc, le nouveau roi, Mohamed V, manœuvra dès l'indépendance pour asseoir son pouvoir, avec l'aide de la France et de la fraction la plus conservatrice du parti nationaliste, l'Istiklal. Le Maroc était indépendant, mais son économie restait agricole et marquée par la colonisation. Les aspirations des millions de paysans pauvres, des campagnes, des classes populaires des villes, de la petite bourgeoisie intellectuelle ou commerçante, des patrons plus ou moins gros ou des propriétaires terriens étaient opposées les unes aux autres. Mohamed V joua habilement sur ces divisions. Il devait les clés de son royaume à l'État français, mais il s'opposa en martyr de l'indépendance. Ce statut lui avait été donné par l'Istiklal sous prétexte qu'il s'était opposé à la tutelle française et avait été envoyé en exil pendant 3 ans. Son titre de commandeur des croyants lui conférait une légitimité dans la population et le fait qu'il soit l'héritier de la vieille dynastie marocaine précoloniale lui apportait la confiance des classes possédantes. Mohamed V alterna les manœuvres politiques et le recours à la force pour bâtir un État à sa main. Il associa au pouvoir l'Istiklal, ce qui provoqua l'éclatement de ce parti qui regroupait des forces aux intérêts contradictoires. Au Sahara espagnol, Mohamed V laissa les troupes françaises et espagnoles écraser les combattants de libération marocaine qui soutenaient les troupes sahraouies en lutte pour leur indépendance. Dans le Rif, une rébellion populaire qui ne voulait pas baisser les armes tant que l'indépendance algérienne n'était pas acquise harcelait les soldats français. Fin 1958, 2 ans après l'indépendance, le prince héritier, le futur Hassan II, épaulé par le commandant Oukfir, fut envoyé à la tête de 20 000 hommes pour écraser cette rébellion. Il fit bombarder les villages du Rif, tuant et blessant plusieurs milliers de personnes. En 1961, après sa mort subite, Mohamed V avait réussi à marginaliser l'Istiklal et les partis qui en étaient issus. Il avait réussi à forger une armée et un appareil de répression à sa main, tout en bénéficiant d'un soutien populaire. Son fils, Hassan II, lui succéda. À la tête de l'appareil de répression, il avait gagné la confiance de la bourgeoisie française, qui voyait en lui un allié solide, garant de ses intérêts, y compris contre son propre peuple. C'est ainsi que démarrait la légendaire amitié franco-marocaine, tandis que Hassan II devenait notre ami le roi. La constitution de 1962 faisait du roi une personne inviolable et sacrée, et du régime une monarchie de droit divin. Il était le premier propriétaire terrien et l'homme le plus riche du pays, à la tête d'un grand groupe industriel marocain, l'Omnium, qui exploitait les mines de phosphate, la ressource la plus importante du pays. Avoir de bonnes relations avec la monarchie était la meilleure, sinon la seule façon d'y faire des affaires. Son frère, Moulay Abdellah, était un intermédiaire obligé. On le surnommait « Son Altesse 51% », car c'était le pourcentage qu'il réclamait pour les entreprises marocaines et étrangères qu'il parrainait. Pendant que celle-ci prospérait à l'ombre de la dictature d'Hassan II, les classes populaires, elles, étaient maintenues dans la pauvreté. En 1965, à Casablanca, la jeunesse des lycées descendit dans la rue, rejointe par la jeunesse, par celle des bidonvilles, par les sans-travail, les ouvriers. Le raz-de-marée toucha aussi la région de Fès. La police tira. Le chef de la sécurité marocaine, le général Oukfir, bourreau du Rif, mitrailla personnellement la foule par hélicoptère. Les chars convergèrent sur la ville. Pendant 3 jours, le régime assassina plusieurs centaines de jeunes et de pauvres. Hassan II décréta l'état d'exception, qui dura 5 ans. La répression de Casablanca inaugurait la période dite des années de plomb, qui dura aussi longtemps que les 30 années du règne d'Hassan II. Le général Oukfir devint ministre de l'Intérieur et fut chargé de l'élimination de toute opposition. Ses victimes ne se comptent plus. Parmi elles, Mehdi Ben Barka, un ancien dirigeant de l'Istiklal, passé dans l'opposition et qu'il fit assassiner en 1965 avec l'aide des services secrets français. Des témoignages rapportent les scènes insoutenables de torture subies par les opposants politiques ou supposées telles. La prison de Tazmamart, dans l'Atlas marocain, où des années durant, ils subirent les pires traitements, est le symbole de ces années de plomb. Si la monarchie parvint à rétablir l'ordre, elle était fragilisée. Le soutien, voire la ferveur populaire qu'elle avait suscitée au moment de l'indépendance, avait disparu, remplacée par l'écœurement devant le népotisme et la corruption. Dans les rangs de l'état-major, l'idée de se débarrasser du roi prit corps. À 2 reprises, en 1971 et 1972, des hauts gradés de l'armée, parmi lesquels le sanguinaire Oukfir, tentèrent sans succès d'assassiner le roi. Ces tentatives de coup d'État entamaient le prestige d'un roi affaibli. Pour redorer son blason et reprendre en main son armée, Hassan II agit. Il réprima férocement les officiers qui s'étaient mutinés et chercha un soutien du côté de la gauche en levant l'interdiction qui frappait le Parti communiste marocain. En 1975, l'agonie du général Franco, le dictateur espagnol, offrit au roi du Maroc l'occasion d'annexer le Sahara occidental. Sous l'appellation de Marche verte, Hassan II lança 350 000 hommes et femmes à la reconquête de cette colonie espagnole en passe de devenir indépendante. Contrairement à la légende forgée par le gouvernement marocain, cette marche ne fut pas un élan du peuple qui aurait agi spontanément animé d'une ferveur divine. Non, tout était orchestré par le pouvoir au plus haut niveau. Chaque ville dut envoyer son contingent de volontaires, encadré par des milliers d'officiers des forces armées et de la gendarmerie royale. Cette marche verte ouvrait la voie à l'occupation militaire du Sahara occidental par le Maroc, piétinant le droit du peuple sahraoui à disposer de son sort. Après le départ des troupes espagnoles en 1976, le Maroc récupéra le nord et le centre du Sahara occidental, dont la capitale Laayoune, tandis que la Mauritanie prenait le sud. Le Front Polisario, regroupant les nationalistes sahraouis, proclama alors une république arabe sahraoui démocratique. Elle fut reconnue immédiatement par l'Algérie. Une nouvelle guerre des sables commença alors entre le Front Polisario et l'armée marocaine. Désormais, les officiers de l'armée marocaine étaient occupés à combattre le Front Polisario et ne représentaient donc plus une menace pour Hassan II. La guerre lui donnait en même temps l'occasion d'obtenir le consensus de toutes les formations politiques du pays, des partis traditionnalistes aux partis communistes. Tous les nationalistes marocains abandonnèrent leur discours antimonarchiste pour communier autour du Sahara occidental. Une guerre féroce s'était déclenchée contre les Sahraouis. Malgré cette répression, le régime n'obtint jamais la reddition de ce peuple et 50 ans plus tard, la question du Sahara occidental n'est toujours pas réglée. En Tunisie, Habib Bourguiba, qui gouvernait depuis 1956, au nom d'une république qui se voulait laïque, moderne et démocratique, et ouverte sur l'Occident. Bourguiba tenait sa popularité des 10 ans passés en exil ou en prison, et du soutien apporté par la puissante confédération syndicale, l'UGTT. Sa popularité était un atout aux yeux des riches Tunisiens, soucieux de jouir tranquillement de leurs biens, mais aussi auprès des capitalistes étrangers, qui le considéraient comme une garantie pour la sécurité de leurs investissements. Comme Boumediene en Algérie et Hassan II au Maroc, Bourguiba s'imposant en réprimant férocement toutes les oppositions, mais aussi tous ceux qui, dans son propre parti, risquaient de lui faire de l'ombre. En 1961, il fit assassiner Salah Ben Youssef, son compagnon de route. Le Parti communiste tunisien fut interdit, ainsi que la presse de gauche. L'UGTT, le syndicat unique, fut épuré à plusieurs reprises. Bourguiba devint le seul maître de l'exécutif. Des élections avaient bien lieu, mais tous les partis autres que le sien étaient interdits. Son régime prit la forme de plus en plus d'une dictature personnelle et policière. Cette démocratie de façade suffisait aux dirigeants français pour cautionner le mythe d'une Tunisie démocratique et vanter les mérites de celui qui, dans les années 70, se fit nommer président à vie. En 1964, sous la pression des États-Unis, qui avaient étendu leur influence sur les pays devenus indépendants, la Tunisie avait entrepris une réforme agraire destinée à étendre les cultures d'exportation. Une planification agricole qualifiée de socialiste, faite par en haut, avec l'aide de l'armée et de la police, visait à concentrer la propriété foncière au profit des paysans riches et de la bourgeoisie. Les petits paysans pauvres, craignant de perdre leurs moyens d'existence, opposèrent une résistance acharnée. Ils sabotèrent la production, se livrèrent à l'abattage du bétail, recourant même parfois au terrorisme. En 1969, face à des émeutes paysannes qui se généralisaient, Bourguiba mit un coup d'arrêt à l'expérience avec l'aval des États-Unis. En 1972, il promulgua des lois accordant de larges facilités aux entreprises étrangères venant s'installer en Tunisie. Les entreprises françaises en profitèrent, ainsi qu'une bourgeoisie, une petite bourgeoisie aisée locale. Mais c'est surtout l'exploitation des gisements de pétrole, indispensables pour la production d'engrais, qui intéressait les puissances impérialistes. Dans tout le Maghreb, comme dans tant d'autres pays pauvres du monde à la même époque, l'agriculture était incapable de nourrir une population de plus en plus nombreuse. Dans les zones rurales, les jeunes sans travail étaient condamnés à migrer vers les villes ou l'Europe. D'immenses bidonvilles surgirent autour de Casablanca, Tunis, Alger. Cette crise de l'agriculture ne fit qu'aggraver la dépendance de ces pays du Maghreb à l'égard de l'impérialisme. Pour nourrir leur population, ils étaient contraints d'importer depuis les pays impérialistes les céréales, le sucre, le lait dont ils avaient besoin, en les payant en devises. Cela ne fit qu'aggraver le déficit de leur balance commerciale. Ainsi, à la fin des années 1970, en Tunisie, 25% de ce déficit était constitué par des importations alimentaires dont la France était le premier fournisseur. En Algérie, l'exportation des hydrocarbures était la première ressource du pays, tandis qu'au Maroc et en Tunisie, c'était la vente du phosphate qui occupait cette place, très loin devant les cultures d'exportation et le tourisme. Aussi, quand en 1977, le prix du phosphate s'effondra, et quand en 1984, le prix du baril de pétrole fut divisé par 4, ce fut une catastrophe. Au bord de la faillite, ces États n'eurent pas d'autre solution que d'avoir recours à l'endettement auprès du FMI, qui, en contrepartie, exigea des régimes qu'ils imposent aux travailleurs et aux classes populaires des plans d'austérité drastiques. Cela provoqua des réactions, et durant une décennie, le Maghreb fut le théâtre de révoltes dont la jeunesse était le fer de lance. Des grèves ouvrières de Tunisie en 1978, aux émeutes d'octobre 1988 en Algérie, en passant par les émeutes du pain en 1981 au Maroc, les peuples relevaient la tête. En Tunisie, le 26 janvier 1978, le chef de la sûreté, un certain Ben Ali, ordonna à la police de tirer sur les manifestants qui avaient répondu à l'appel de l'UGTT, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. Habib Bachour, le dirigeant de l'UGTT, pourtant lié au pouvoir, fut condamné à 10 ans de prison. L'agitation ouvrière ne cessa pas pour autant. En 1980, l'annonce de nouvelles hausses sur les prix de produits de première nécessité enflamma le bassin minier de Gafsa, situé dans une région déshéritée au sud du pays. Après 6 mois de grève, les mineurs, excédés et armés, s'emparèrent de la ville minière de Gafsa, recueillant la sympathie et le soutien de la population ouvrière. Bourguiba justifia la répression en assimilant les mineurs à des commandos venus de l'extérieur et leurs actions à des actes de guerre visant à déstabiliser le pays. L'impérialisme français, soucieux de son approvisionnement en phosphate, reprit à son compte cette campagne de dénigrement. Il fit parvenir à Bourguiba une aide militaire et envoya 3 bâtiments de guerre croisés au large de la Tunisie. Après cette répression, Bourguiba décida d'une ouverture politique. Les partis jusque-là interdits, comme le Parti communiste tunisien, furent autorisés. Le pouvoir avait besoin de la caution syndicale pour donner un semblant de légitimité à cette prétendue démocratisation. Les dirigeants de l'UGTT furent sortis de prison pour passer un accord électoral avec le parti de Bourguiba qui les avait réprimés. Ils présentèrent des candidats communs sous l'étiquette Front National. L'UGTT cautionnait la démocratisation à la mode Bourguiba. D'autres candidats purent s'exprimer, organiser des meetings, suscitant un intérêt populaire. Inquiet de cet intérêt populaire et aussi de l'issue de ce scrutin, le régime falsifia les résultats électoraux. En janvier 1984, le doublement du prix du pain et de la semoule condamnait les plus pauvres à la famine, en particulier au sud du pays où le pain représentait les trois quarts des dépenses alimentaires. Face à des émeutes qui secouèrent presque toutes les villes du pays, le pouvoir renonça aux augmentations. Pour la première fois depuis l'indépendance, les travailleurs et les classes populaires obligèrent le régime de Bourguiba à reculer. En 1987, Bourguiba, qui avait gouverné près de 30 ans d'une main de fer, fut évincé par son premier ministre Ben Ali, qui renforça le quadrillage policier. À l'aube de l'an 2000, les effectifs de la police en Tunisie avaient été multipliés par 4 et le nombre de personnes mises sur écoute était passé, lui, de 200 à 3000. Alors que de nombreux jeunes étaient sans travail, les riches étalaient leur fortune, à commencer par la famille de Ben Ali, une mafia qui avait mis la main sur les activités les plus lucratives du pays. En Algérie, c'est l'armée qui assura la succession de Boumédienne après sa mort en 1978. En choisissant Chadli Ben Djedid, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Son règne commença par une révolte et s'acheva de même. La première éclata dès 1980 en Kabylie, région qui se considérait comme marginalisée et dont la langue berbère était effacée de l'identité algérienne. Après une répression qui fit 130 morts et entraîna l'arrestation massive de militants qui défendaient la culture berbère, le régime fit le choix de s'appuyer sur les islamistes contre les militants de gauche très présents dans les universités. Le vaste réseau des mosquées, construites par l'État ou par des notables, leur permit d'étendre leur influence sur l'ensemble du territoire. En 1979, en Iran, la révolte populaire qui avait renversé le régime du Shah avait porté les ayatollahs au pouvoir. Et ce succès des intégristes iraniens renforçait les islamistes du monde entier. En Algérie, sous leur pression, un nouveau code de la famille fut institué en 1984. Les femmes étaient condamnées à être des mineures à vie. En 1985, avec la chute des prix des hydrocarbures, les recettes du pays s'effondrèrent, provoquant l'arrêt des importations, des pénuries et un chômage de masse. Cela amena l'explosion sociale du 5 octobre 1988. La révolte se généralisa aux grandes villes. 25 ans après l'indépendance du pays, le FLN était vomi par la population. L'état de siège fut déclaré et l'armée déploya ses blindés. Après une semaine de répression sanglante, des centaines de familles se retrouvaient endeuillées. Des milliers d'autres cherchaient un fils, un frère, disparus, arrêtés, torturés dans des prisons du sud algérien. Après cette répression, pour tenter de redonner un souffle à un régime usé, l'armée tenta, elle aussi, une ouverture démocratique en 1989. Les journaux se multiplièrent et des partis politiques interdits furent légalisés. Cela fit naître des espoirs. Un vent de liberté soufflait sur le pays. Mais aucun parti n'était en état de lui donner une expression de classe et une perspective révolutionnaire. Et ceux qui en profitèrent le plus furent les islamistes du Front islamique du salut, le FIS, qui avait prospéré à l'ombre du pouvoir. Il fut alors en passe d'y accéder grâce à un score écrasant au premier tour des élections législatives. L'armée, qui refusait qu'une force politique qu'elle ne contrôlait pas arrive au pouvoir, interrompit le processus électoral. Après 3 ans d'effacement, elle revenait sur le devant de la scène. L'interruption des élections déclencha une guerre entre les groupes armés islamistes d'un côté et l'armée de l'autre. La population était prise en étau entre les deux. Des deux côtés, les bandes armées se livrèrent à une terreur dont les civils furent les principales victimes. Cette décennie noire des années 1990, comme on l'appela, ne fut pas une guerre civile, mais une guerre contre les civils, qui aurait fait entre 100 et 200 000 morts. Elle n'en fut pas moins une période faste pour les grands groupes internationaux et la bourgeoisie algérienne qui surfèrent des affaires. Il faut souligner que malgré les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, la collaboration entre les services de sécurité des deux pays, elle, ne cessa jamais. En 1998, l'état-major mit fin aux affrontements en concluant un accord avec les groupes islamistes. Ensuite, les généraux firent le choix de s'éclipser de nouveau et de s'abriter derrière un paravent civil représenté par un dirigeant historique du FLN, Abdelaziz Bouteflika. Sous prétexte de réconciliation, les crimes de la décennie noire étaient amnistiés. Et aujourd'hui, 25 ans après la fin de ce drame, des familles cherchent toujours les disparus de cette période. Au Maroc, les mesures d'austérité imposées par le FMI dans les années 1980 intervenaient dans un pays frappé par les inégalités sociales. Les millions d'hectares qui appartenaient aux colons, parmi les plus riches du pays, étaient passés dans les mains des notables ruraux, des cadres du régime et de certains officiers, laissant dans le dénuement une masse de paysans misérables. Quant à la politique de marocanisation des biens étrangers, elle profita à la bourgeoisie marocaine la plus riche, tout en préservant le capital étranger qui conservait des parts importantes dans ses entreprises. En 1978, 36 familles marocaines avaient pris le contrôle des deux tiers de ces biens concernés. Pendant ce temps, les classes populaires étaient étranglées par les mesures d'austérité qui s'ajoutaient au coût de la guerre au Sahara. Cette guerre, à l'époque, absorbait 45% du budget de l'État. La population s'appauvrissait inexorablement. En 1981, alors que sévissait une sécheresse dramatique, les émeutes du pain éclatèrent aussi au Maroc. Partout dans le pays, des manifestations prirent pour cible les symboles de la richesse. La police tira sur la foule, faisant entre 600 et 1000 morts. Un mort sur trois était un enfant. Des milliers de personnes furent incarcérées et condamnées. En 1984, sur injection du FMI, le régime décida de nouvelles hausses de produits alimentaires. À Casablanca, la hausse des tarifs d'inscription au bac déclencha un mouvement lycéen qui s'étendit aux grandes villes, entraînant la jeunesse des quartiers pauvres et des bidonvilles, et finalement toute la population dans un mouvement de révolte contre le chômage, la faim, mais aussi contre la dictature. Face à la contestation, Hassan II renonça aux hausses programmées, puis envoya les chars tirés au canon et ses hélicoptères à la mitrailleuse sur les manifestants. Dans un discours haineux, il qualifia de bandits et de fainéants la jeunesse qui l'avait courageusement contraint à reculer. Dans ces années 80, les classes populaires du Maghreb avaient su se mobiliser contre leurs gouvernements respectifs. Le drame, c'est que faute de partis qui représentent leurs intérêts, bien des dirigeants tentèrent d'utiliser la combativité ouvrière pour les conduire sur des objectifs n'ayant rien à voir avec leurs intérêts de classe. En Tunisie, la honteuse alliance de la gauche, des syndicats et du régime ouvrit la voie aux partis, aux mouvements islamistes. Dans ces trois pays, face à des régimes honnis, les islamistes furent la seule opposition qui sut capter le mécontentement populaire. Ils avaient réussi à gagner du terrain dans les quartiers populaires, grâce au réseau des mosquées et à leur rôle dans de nombreux aspects de la vie sociale, comme l'aide aux plus démunis, dont ils avaient l'oreille, contrairement aux démocrates, qui n'essayèrent jamais de s'adresser à eux et de répondre à leurs aspirations. Durant toutes ces années de révolte populaire contre la vie chère, qui virent monter le poids des islamistes, les trois régimes ont continué à utiliser la carte du nationalisme pour détourner la colère de leur peuple contre leurs voisins. On vous propose de faire une pause.
Donc, on va faire une pause d'un quart d'heure. Donc, on rattaque à 16h25. Il y a une table de place à l'extérieur. N'hésitez pas à aller voir nos publications. Et je vous rappelle que si vous quittez votre place, on vous demande d'emmener vos affaires et de ne pas les laisser sur les sièges. Voilà, à tout de suite.